Bien chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous propose de suivre la lecture de la parole de Dieu dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous ferons une lecture assez longue, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 11 à 18. Paul écrit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Considérons attentivement le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ est la condition d'une vraie conversion à Dieu et la position de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, au fond, c'est être placé dans le Christ. La conversion à Dieu nous amène à cette position-là et elle nous y amène totalement. C'est le point que je vais développer aujourd'hui pour l'encouragement de tous ceux et de toutes celles qui m'écoutent. Paul déclare « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 12 et 13. Dieu ne nous a pas installés, passez-moi l'expression, dans une pièce mansardée, exiguë, sombre, inconfortable, ou dans un F1, mais il nous a transportés dans un royaume, celui de son Fils bien-aimé. Quel privilège, quelle grâce! Je voudrais insister sur un point. On est en Jésus ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-position, on n'est pas presque converti ou presque chrétien. On l'est ou on ne l'est pas. Et si on est en Christ, on y est totalement. Je vais prendre une image de l'Ancien Testament pour me faire comprendre. lors du déluge. Noé était dans l'arche. Il y est entré quelques jours avant les terribles jugements de Dieu sur toute la terre, alors que le ciel était encore bleu et qu'il n'était tombé aucune goutte de pluie sur le sol. Lorsque les écluses des cieux se sont ouvertes et que les sources du grand abîme ont jailli, Noé était toujours dans l'arche. Vous le savez, le déluge a été 40 jours sur la terre. Au 10e jour, au 20e jour, au 30e jour, Noé n'était pas plus dans l'arche qu'au premier jour. Il était dans l'arche, un point, c'est tout. Vous comprenez? De la même manière, le chrétien est en Christ. Cette position spirituelle glorieuse est le résultat de l'œuvre de Jésus. L'apôtre Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 7. Cette œuvre de Jésus, pour nous, est parfaitement réalisée. Nous avons en Jésus-Christ une victoire totale, un triomphe parfait et complet. Dans cette même épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle de la position actuelle de Jésus, et il le fait au chapitre 1er, verset 21, je vous le lis. Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Son triomphe est le nôtre, puisque Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est pas écrit que Dieu nous fera asseoir un jour, après l'enlèvement de l'Église ou après notre mort, quand nous irons rejoindre le Seigneur. Paul ne dit pas que Dieu nous fera alors asseoir avec Christ. L'apôtre Paul en parle comme d'une situation présente. Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Ce qui signifie que tout ce qui est sous les pieds de Jésus est aussi sous nos pieds. Nous devons le saisir constamment par la foi. Quel encouragement pour chacun de nous. Considérons maintenant ensemble un aspect de notre position en Christ et qui est de la plus haute importance. Sommes-nous en Christ pour vivre une vie morale ou pour vivre une vie spirituelle? Il est évident que être en Christ nous conduit à une vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de notre esprit avec l'esprit de Jésus, et pas seulement une vie morale. Il est évident que celui ou celle qui se convertit authentiquement à Dieu va fuir le péché, va se garder de l'immoralité. Mais reconnaissez ceci, il y a dans le monde des hommes, des femmes irrégénérés, parfois même tout à fait incrédules, et qui cependant vivent leur vie de façon morale. Je veux dire par là qu'ils ne volent pas, ils n'ont tué personne, ils ne boivent pas, ils ne se droguent pas, ils ne trompent pas leurs conjoints, ils sont d'honnêtes travailleurs, de bons citoyens, d'agréables voisins, ils sont capables de dons généreux à certaines associations humanitaires, mais au regard de l'Évangile, ces gens sont perdus. Leurs péchés, parce qu'ils en ont, ne sont pas pardonnés. Ils n'ont aucune foi dans la personne et l'œuvre de Jésus, ils n'ont donc aucune vie spirituelle. Ils n'ont aucune communion avec Dieu ni avec Jésus-Christ. Il y a un drame chez bon nombre de soi-disant chrétiens. Ils se contentent d'une vie morale et ils y trouvent d'ailleurs un refuge pour leurs illusions. Ils disent dans leur témoignage « Je ne fume pas ou je ne fume plus, je ne bois pas ou je ne bois plus. » Mais, encore une fois, certains païens peuvent en dire autant. C'est bien, certes, de ne pas fumer, mais ce n'est pas pour cela qu'on est en ordre avec Dieu et prêt pour le ciel. Les chrétiens disent encore un certain nombre de choses qui, certes, paraissent bonnes, et qui le sont, mais qui ne relèvent pas d'une vie spirituelle, d'une vie profonde avec Dieu. Trop de chrétiens se contentent d'une vie morale. Trop de parents chrétiens sont satisfaits de la vie morale de leurs enfants, alors qu'ils sont morts spirituellement et qu'ils sont en route vers l'enfer. Considérons ce que Jésus enseigne dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 17. Je vais faire là une longue lecture et je vous remercie d'avance d'y prêter attention. Donc Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17. « Je suis, dit Jésus, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Jésus nous enseigne ici ce qu'est la vie spirituelle. C'est sa vie en nous. Nous devons demeurer en lui comme le sarment ne fait qu'un avec le cep de vigne. La vie du cep passe dans le sarment. La vie spirituelle consiste à vivre en Christ par la foi, dans une communion étroite et intense avec lui, pour que sa vie, son caractère, ses pensées, ses sentiments nous envahissent sous l'action puissante et continue du Saint-Esprit. Quels sont, selon l'enseignement de Jésus, les manifestations et les fruits d'une vraie vie spirituelle? La pureté, l'exaucement des prières, le fait de garder les paroles et les commandements de Jésus, demeurer dans son amour, avoir sa joie, manifester l'amour pour les frères en la foi, et plus qu'être ses serviteurs, être ses amis, entrant dans une pleine révélation de Dieu le Père. C'est bien autre chose, reconnaissez-le, qu'une vie morale, même si, encore une fois, cette dernière est indispensable, bien évidemment. Si, comme je l'ai dit au début de mon message, lorsque nous sommes en Christ, nous y sommes totalement et que nous ne serons pas plus en Christ dans 10 ans qu'aujourd'hui, où se situent alors nos progrès? Dans la découverte, par la foi, de notre héritage, de cette position en Christ, de la prise de conscience progressive de ce que nous sommes en lui et de ce que nous avons en lui. À 4 reprises, vous le savez, dans sa parole, dans le livre d'Habacuc, dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Hébreux, à 4 reprises, Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». N'oubliez jamais ceci, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. Nous sommes ce que nous croyons. Vous êtes ce que vous croyez. Souvenez-vous de cet épisode de la vie d'Abraham. après que Lot se fut séparé de lui, l'Éternel lui dit, « Lève tes yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Vous trouvez ces paroles de l'Éternel dans la Genèse, au chapitre 13, les versets 14 et 15. « Mon frère, ma sœur, qui m'écoutez, du lieu où vous êtes, au stade où vous êtes parvenu dans votre marche chrétienne, ne regardez pas à vous-même, ne regardez pas aux autres. Il y a un message de Dieu pour vous aujourd'hui. Du lieu où tu es, regarde. Alors je vous dis de la part du Seigneur, levez vos yeux et considérez toute la grandeur de la personne de Christ et de son œuvre. Tout ce que vous voyez alors, tout ce que vous verrez plus tard, est à vous. C'est votre héritage en Christ. Dieu, votre Dieu, n'est pas le Dieu de la médiocrité, le Dieu de la défaite, le Dieu de la pauvreté spirituelle. Il veut pour vous le meilleur, croyez-le. Le frère aîné du fils prodigue n'avait pas compris l'esprit de la maison. Son père lui dit, « Mais mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Avez-vous compris l'esprit de la maison de votre Père céleste? Avez-vous compris que tout ce qu'il a est à vous en Jésus-Christ? L'avez-vous saisi comme votre merveilleux héritage? Combien de chrétiens vivent en deçà de ce que Dieu veut pour eux? Et tout simplement à cause d'une vie spirituelle déficiente, à cause d'un manque de faim des choses de Dieu. Comme je comprends l'apôtre Paul qui priait pour les chrétiens de l'église d'Éphèse, afin que, comme il l'écrit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 17 à 19. Mais comment se fait-il que si peu de chrétiens connaissent profondément leur Seigneur? Pourquoi tant de croyants sont si pauvres spirituellement, si dépouillés de la gloire de leur héritage? Pourquoi tant d'enfants de Dieu sont si faibles, si négatifs, toujours vaincus, alors que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est à leur disposition? Imaginez un enfant de race noble naissant dans un magnifique et immense château. Au début de sa vie, il n'ira pas au-delà de son berceau. Mais au fur et à mesure de son développement, de sa croissance, il va découvrir tout ce qu'il possède. Toutes les pièces du palais, les jardins, nourrisson, il n'était pas moins dans le château qu'à l'âge adulte. Il avait seulement besoin de grandir pour en prendre conscience et en jouir. Eh bien, il en est ainsi de notre vie, de votre vie en Christ. Prenons un autre exemple. Encore un enfant que je place cette fois dans un immense jardin et qui se contente de cueillir un fruit ou quelques fruits à proximité de sa main, alors qu'une récolte abondante est là devant lui, mais il ne le réalise pas, il est encore un enfant. Adulte, il comprendra tous les avantages de sa propriété. Notre progrès, puisque c'est bien de cette question-là dont nous traitons maintenant, notre progrès consiste donc à saisir par la foi tout notre héritage en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait expérimenté dans sa marche avec Jésus. Il dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Car ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. » Et l'apôtre Jean écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut une sainte ambition, une large vision, un bon appétit spirituel pour saisir ce que Dieu nous offre. Avançons dans la découverte de ce que nous sommes et de ce que nous avons en Christ. Amen.